Combien d'entre vous, à un moment donné, vous vous êtes fait un scénario, vous vous êtes préparé même pour un certain événement. Le scénario est là, on se prépare, et là arrive l'événement, arrive le moment d'entrer ou de tout simplement faire ce qu'on voulait faire, et là, tout vire en tête à queue, comme je dirais. Les choses n'arrivent pas comme on voudrait, et ce qu'on avait anticipé, c'est tout à fait le contraire. Combien c'est déjà arrivé, ça? Donc, vous savez, peu importe ce qu'on pensait qui arrive, n'arrive pas, une chose est sûre, Dieu, lui, il sait tout le temps qu'est-ce qui va arriver. Amen. Dieu, lui, connaît le scénario de notre vie du début à la fin. Peu importe que parfois on a anticipé des choses et que les choses n'arrivent pas comme on l'avait prévu, bien, laissez-moi vous dire que Dieu, lui, a tout prévu dans nos vies. Et dans la mesure où notre cœur, que notre vie est en lui, dans la mesure qu'il va vraiment faire que son plan dans nos vies, que qu'est-ce qu'il avait prévu pour nous, il va arriver, même si nous ne l'avions pas anticipé. Et c'est bien souvent ce qu'on avait prié parfois, ce qu'on avait anticipé, c'est autrement différent de ce que Dieu, lui, désire pour chacune de nos vies. Donc, un petit mot en passant. Donc, il ne faut pas paniquer si parfois ce qu'on a anticipé n'arrive pas comme on l'avait prévu. Mais Dieu, lui, au bout du compte, reste en contrôle. Donc, merci Seigneur pour ta parole ce matin. Et vous savez, ce matin, c'est le deuxième message, c'est la deuxième partie du message de la semaine passée, ce qui avait été apporté la semaine passée. Et on est toujours dans ce thème-là, depuis plusieurs semaines, on est dans ce thème-là de prier avec passion. Et on a vu dans les semaines passées, pour ceux qui étiez avec nous, qu'on a vu que prier avec passion, c'est de prier de la façon que Jésus priait, c'est de prier vraiment avec un cœur qui est humble, avec un cœur de prier tout simplement au travers de ce modèle que Jésus nous a donné au travers du Notre Père. Donc, on voit que quand les disciples ont approché Jésus, quand on regarde dans la parole de Dieu, à un moment donné, les disciples approchent Jésus et ils demandent à Jésus, « Jésus, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. » Et je pense que chaque jour de notre vie, nous avons besoin de développer cette vie de prière-là, cette vie de relation-là avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi ce matin? Que nous avons de développer cela. Et ce matin, le thème est encore là, de prier avec passion. Et de prier avec passion, mais pour moi aussi, quand je regarde aux Écritures, et c'est une parole qui m'a touché il y a quelques semaines, de prier avec passion, c'est de se jeter aux pieds de Jésus en croyant qu'il va vraiment agir. Combien est-ce qu'il y en a qui croient que quand on va à Jésus avec foi, que peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe que le scénario qui se présente à nous, que si on prie avec passion, qu'on va avec foi au pied de Jésus, tout simplement, dans le fond, c'est une allégorie ou tout simplement une attitude d'humilité que quand rien ne va plus, je vais à ses pieds et je vais chercher sa volonté. Et là, de tout simplement de présenter mes problèmes à lui et de dire, Seigneur, j'ai un problème insoluble dans ma vie, j'ai quelque chose qui est humainement impossible à régler. Et là, je m'en viens vers toi, Seigneur Jésus, parce que je sais que toi, tu es la solution et tu peux donner la solution à mes situations et que tu peux venir changer la dynamique dans laquelle peut-être présentement je suis plongé et que tu peux venir m'aider, que tu peux venir m'aider à traverser ou que tu peux, toi, dans ton omniprésence, dans ton omnipuissance, dans ta grâce et dans ce que tu es et de la façon que toi, tu veux agir, que tu peux changer une situation, que tu peux changer la dynamique d'une situation. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Que Dieu peut faire toutes choses, que Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut et de la façon qu'il veut. Et que si nous prions selon sa volonté, c'est sûr qu'il nous répond. Amen. Donc, Prier avec passion, c'est se jeter aux pieds de Jésus en croyant qu'il va vraiment agir. On va lire le texte ce matin dans Marc chapitre 5, le verset 35. On va lire ensemble. Donc j'y vais, Marc, ça va apparaître aux écrans. Donc Marc 5, 35 nous dit, il parla encore. Donc quand, juste un petit peu vous remettre dans le contexte pour ceux qui n'étaient pas la semaine passée, quand on voit ici le premier mot, il parla encore, c'est dans le fond, il est encore en conversation avec cette femme-là qui venait d'être guérie d'une perte de sang. Je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine passée ou ceux qui n'étaient pas là, juste faire un petit rappel. Bien, on voit dans Marc 5 qu'il y a deux histoires qui se chevauchent. On voit Jaïrus qui est un des chefs de la synagogue de sa communauté. Et là, Jésus est là dans son patelin. Et Jaïrus entend parler de Jésus, va vers Jésus et va vers lui parce que sa fille est en train de mourir, sa fille est aux portes de la mort. Et là, Jaïrus va voir Jésus. Et là, la Bible nous dit, on le voit dans le texte, je pense que c'est Jean 5, 22, on voit que Jaïrus, dans une attitude désespérée et complètement d'humilité, s'en va aux pieds de Jésus et il demande à Jésus, fait cette requête, il dit, Jésus, viens voir ma fille, viens poser les mains à ma fille parce qu'elle est en train de crever, elle est en train de mourir complètement. Et là, Jésus... la Bible nous dit, Jaïrus se relève ensemble, s'en vont vers la maison de Jaïrus. Et là, tout simplement, la foule les suit. Et là, à un moment donné, il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans qu'elle souffre, qu'elle a souffert aux mains des médecins. Et son cas a empiré. Tout son argent, tous ses avoirs ont été dans la poche des médecins. Puis laissez-moi vous dire que les médecins de l'époque, c'était loin d'être les médecins qu'on a aujourd'hui. Bien souvent, je vous dirais que c'était loin d'être scientifique. Puis les gens souvent souffraient, parce que bien souvent, ces médecins-là faisaient des expériences qui souvent n'amélioraient pas le cas du patient. Ça peut arriver aujourd'hui, mais aujourd'hui, on sait que des médecins qui aiment leur passion, qui sont compétents, vont amener des solutions quand c'est solutionnable. Donc, cette femme-là a souffert 12 ans, elle est désespérée, elle est tannée, et puis selon la loi lévitique, elle sait qu'elle est impure, que si elle touche un objet ou si elle va dans la foule, toutes les personnes qu'elle va toucher, mais selon la loi, la Lévitique, elle va tout simplement contaminer les gens autour d'elle. Mais malgré tout cela, dans une cause désespérée, elle sait que Jésus peut la guérir parce qu'elle a entendu parler que Jésus solutionnait les problèmes, que quand les malades le touchaient, ils étaient guéris. On voit dans Luc, le chapitre 6 de Luc, il y a un verset qui est bien spécifique. On voit que les malades, les gens qui voulaient être guéris, allaient voir Jésus, le toucher, il était guéri. Et cette femme-là, probablement qu'elle avait entendu, parce que la popularité de Jésus s'étendait de plus en plus. Et cette femme dit, coûte que coûte, avec les forces qui me restent, je vais aller toucher son vêtement. Et on a vu la semaine passée, qu'avec les forces qui lui restaient, avec la foi qu'elle avait en Jésus, elle a touché le bord de son vêtement, elle était complètement guérie. Est-ce que je peux vous dire ce matin que quand, avec la foi, on va toucher à Jésus, qu'il y a quelque chose qui se passe? Qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Veux, veux pas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on revient à notre texte. Jaïrus, il est pressé de s'en aller parce qu'on le comprend, sa fille est en train de mourir. Puis mettez-vous à la place de Jaïrus. Vous avez un enfant, peu importe l'âge, et puis vous savez qu'il est sur le bord de la mort, votre charge émotionnelle, elle va être au maximum. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose dans votre cœur, là, de parent qui fait là, que là, ça urge. Il faut que cet enfant-là soit sauvé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences avec vos enfants où est-ce que peut-être ils ont frôlé la mort. Mais imaginez, Jaïrus est là. Son seul espoir, c'est Jésus. Puis il sait, là, sa fille est à l'extrémité. La Bible nous dit qu'elle est à l'extrémité. Ça veut dire qu'elle est vraiment là aux portes de la mort. Elle est vraiment là. Et là, tout à coup, Jaïrus avance. Il s'en va avec Jésus. Et là, whoop, tout arrête. Le trafic jam. Et là, imaginez son cœur. C'est sûr, la femme, elle est guérie. Puis lui voit ça aussi. Wow, une femme est peu, puis elle est guérie en plus. Par la pureté et la puissance de Jésus-Christ. Et là, vous savez, vous comprenez un peu le sentiment de Jaïrus. On va regarder ça un peu ce matin, ce contexte-là. Donc, dans Marc 5, 35, il parla encore lorsque survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, il les fit sortir. Dans le fond, je ne reviendrai pas sur ce que je vais dire, mais il a fait sortir l'incrédulité de la maison. Il a fait sortir le doute. Il a fait sortir le sarcasme. Il a fait sortir, la moquerie. Et c'est sorti de la maison. Et je crois que dans nos cœurs, un cœur qui est rempli de foi, mais n'a pas autour de cela du doute et comment je pourrais dire ça? De toute façon, je vais en parler tantôt un petit peu, mais Jésus a tout fait sortir, tout simplement de la maison, les choses qui n'avaient aucun rapport avec la foi. Donc, il les fit sortir, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jean-Jacques, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui veut dire, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Donc, encore une fois, comme on a vu la semaine passée, l'Évangile de Marc nous relate deux situations extrêmes de deux personnes dans un seul récit, comme si leur situation était imbriquée une dans l'autre. Donc, on voit premièrement Jaïrus, sa fille de 12 ans qui est à l'article de la mort, une femme qui est atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans, et on voit quelque chose qui est commun aux deux, c'est que les deux, à un moment donné, de leur rencontre avec Jésus, vont littéralement se prosterner devant lui, avec humilité, avec reconnaissance aussi. Donc, dans la vie, vous savez, dans la vie, ce qui nous motive à faire des choses, qui nous pousse à l'action, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous pousse vers l'avant. Donc, si ces deux personnes-là ont pris la décision d'aller vers Jésus, c'est parce qu'elles croyaient qu'ils pouvaient faire quelque chose par rapport à leur situation. Est-ce que toi, ce matin, tu crois que par rapport à ta situation, à ce que tu vis présentement, à ton impossibilité humaine, est-ce que tu crois, hors de tout doute, que Jésus est assez puissant pour changer la dynamique dans ta vie, pour changer quelque chose, pour transformer quelque chose, pour te libérer de quelque chose, peu importe laquelle? Combien ce matin, vous êtes convaincu, hors de tout doute, que Jésus peut, dans ta vie, faire la différence? Combien est-ce qu'il y en a qui croient à ça ce matin? Donc, ces deux personnes-là s'en vont. Elles ont confiance en lui et savent qu'il veut, à cause de son amour et qu'il peut, à cause de sa puissance, venir à leur secours. Et Jésus est celui qui exerce sa toute-puissance sur les maladies, sur les mauvais esprits, sur le péché, sur la nature. Il calme les tempêtes. En fait, Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Et ce matin, je vous propose d'examiner, qu'on puisse examiner ensemble, le parcours particulier de Jaïrus. Donc, comme on a dit tantôt, c'est l'un des chefs de la synagogue de sa communauté. Sa fille de 12 ans est aux portes de la mort. Et lui, il se sent complètement impuissant. Et combien d'entre vous, ce matin, face à certaines situations, face à certains événements, face à certaines choses qui ont pris place dans vos vies, que vous vous sentez complètement impuissant face à ces choses-là. Et c'est ce qui a motivé Jaïrus d'aller vers Jésus, parce que devant la maladie de sa fille, devant ce que sa fille vivait, devant l'extrémité, là où elle était rendue, il était impuissant, il ne pouvait pas rien faire. Et dans son cœur, lui aussi, il avait entendu parler de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est allé vers lui. Et on va regarder ce matin toute cette dynamique-là. Et c'est d'ailleurs ce même sentiment d'impuissance-là qui le pousse à aller vers lui. Et là, tout à coup, Jaïrus, dans son champ de vision, repère Jésus. Et toi, dans ton champ de vision de la foi ce matin, qu'est-ce que tu vois? Dans ton champ de vision spirituelle ce matin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois tes problèmes? Est-ce que tu vois tes difficultés insurmontables? Ou tu vois Jésus qui est là et qui peut venir changer les choses dans ta vie, à sa manière, à sa façon, si tu le laisses faire, si tu le laisses agir ce matin? Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Alors Jaïrus se met en marche, il le voit, il se met en marche vers Jésus. La Bible nous dit, dans l'évangile de Marc, il se jette à ses pieds dans une profonde attitude d'humilité. Et c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé à lui dans une attitude d'humilité. Et c'est au travers l'humilité dans nos vies que Dieu travaille. L'humilité est la porte d'entrée de la puissance de Dieu, de transformation pour nos cœurs et nos vies. L'humilité, c'est d'admettre notre impuissance, d'admettre que sans Christ, on n'est rien et on ne peut rien faire sans lui. C'est d'admettre tout simplement qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas rien faire. Oui, en tant qu'être humain, il y a des responsabilités qui nous incombent. Dieu nous donne d'être responsable de certaines choses. Mais arrivent des moments où est-ce que tu as un mur qui est là. Et que ce mur-là, la seule façon de le contourner ou de le traverser, c'est avec la grâce, la puissance et la divinité et l'infiniment grandeur de Dieu. Amen. Et puis, notre vie, je vous dirais, elle est parsemée d'embûches et que Dieu le sait d'avance. Notre parcours de vie dans le plan et dans tout le parcours de vie, comme j'expliquais à quelqu'un, notre vie, c'est comme un train sur une rail qui a un départ, le début de notre vie, et qui a une fin sur cette terre. Et qu'il y a une continuité aussi dans l'éternité, tout dépendant des décisions que nous prenons ici. Ça a un impact dans l'éternité. Saviez-vous que les décisions que vous prenez sur cette terre, je parle au niveau spirituel, les décisions que vous prenez avec Christ, de vous donner à lui, ça a un impact qui est complètement éternel. C'est éternel. Mais tout simplement, puis ce que je m'apprête à vous expliquer, c'est simple. Voyez-vous, Dieu, lui, il voit tout dans l'ensemble. Il voit le début de notre vie, il connaît chaque chose de nos vies. Et il nous propose un plan qui est parfaitement adapté à notre vie parce que Dieu a une destinée pour chacune de nos vies. Nous sommes tous uniques avec un plan, avec un plan qui a été préparé d'avance pour nous. Et quand nous entrons dans ce plan-là, bien, nous entrons vraiment dans la volonté de Dieu. Et ça ne veut pas dire que quand je rentre dans la volonté de Dieu, qu'il n'y aura pas des obstacles devant moi. Qu'il n'y aura pas des embûches, mais qu'au travers de ces obstacles-là, Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui, à changer notre caractère, à changer notre vie au travers, et on va le voir tantôt, au travers les difficultés, les épreuves à laquelle on peut traverser. Il y a un changement qui se fait dans nos vies, et le plus souhaitable, c'est de ne pas demander à Dieu d'enlever nos épreuves, mais de nous aider à les traverser pour que nous en soyons transformés et de devenir de plus en plus à ce que Dieu désire que nous devenions, à l'image de Jésus, tout simplement. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc, il y a un principe ce matin, une démarche spirituelle fondamentale à saisir. Donc, nous ne pouvons pas exercer notre foi en restant assis sur le divan de la peur. Je parle d'un divan, là, un fauteuil. On ne peut pas exercer notre foi en restant assis sur le fauteuil de la peur, de la crainte, du cynisme, de l'incrédulité ou du désespoir. Il faut se mettre en route vers Jésus par la foi, se jeter à ses pieds avec humilité, en lui demandant de nous aider. Et c'est exactement sur ce terrain-là qu'il va nous accompagner pour nous aider à surmonter nos épreuves. C'est sur ce terrain-là, le terrain de la foi, tout simplement, parce que je crois, même si mes yeux physiquement ne voient pas. Et ça me fait penser à cette histoire-là de Pierre, l'apôtre Pierre. La vie, elle est ainsi faite. À un moment donné, Jésus s'en vient sur la mer, il marche, les apôtres, « Ah, que c'est ça, Jésus marche sur l'eau. » Et là, Pierre, il dit, « Si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne que j'aille sur toi, que j'aille te rejoindre. » Et on connaît l'histoire. Pierre débarque de la barque. Et puis, c'est un des seuls, à ce que je sache, qui l'a fait, qui a eu le guts de le faire. Il a débarqué de la barque. Et vous savez, il a commencé à vraiment marcher sur l'eau. Il a commencé à s'avancer. Je ne sais pas s'il s'est dit en lui-même, hey, c'est tellement cool marcher sur l'eau. Mais il y a une chose qui j'aurais trouvé ça cool. Hey, tu marches sur l'eau, puis il n'y a pas de roche en dessous. Là. Je ne sais pas ce que ça fait en dessous du pied. Là. La sensation que ça fait de marcher sur l'eau, bien, il a marché sur l'eau. Il a vraiment, vraiment marché. Et moi, ce que ça m'enseigne, cette histoire-là de Pierre avec Jésus, cette situation-là qui est vraiment, wow, hors de l'ordinaire, c'est que tant qu'il gardait ses yeux sur Jésus, ça allait bien. Quand est-ce que ça a commencé à aller mal? C'est quand il a commencé à regarder aux vagues. C'est quand il a commencé à regarder à gauche, à droite, puis qu'il a commencé à lâcher ses yeux de Jésus. Wow, il y a des vagues ici. Wow, et ça souffle. Wow. Puis là, il a commencé à être déstabilisé. Il a commencé à caler. Parce que ce qui l'a fait caler, c'est la crainte et la peur. Et on va voir tantôt que Jésus va dire à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Et je crois qu'il y a un principe fondamental, peu importe ce qui nous arrive. Et là, ça n'a rien à voir avec un évangile de prospérité, ni rien de ça. Ça a à voir avec notre attitude de foi. Peu importe la situation, peu importe la montagne qui est devant nous. Je crois que si Pierre avait continué à regarder à Jésus, je crois sincèrement qu'il l'aurait rejoint. Et puis, que cette histoire-là, que peut-être Pierre il a vu ça comme un échec, mais que cette histoire-là nous enseigne quelque chose de profond. Que tant on garde nos yeux sur Jésus par la foi, sur ses promesses, que notre cœur s'attache à ses promesses, je vous dirais que je ne dis pas que les choses vont tout le temps aller super bien. Parce que les vagues, ils seraient restés là probablement. Pierre, il aurait rejoint Jésus, mais probablement que les vagues, ils ont resté là. Moi, je crois que qu'est-ce qui nous aide à traverser nos épreuves de la vie, c'est de croire que Jésus prend soin de nous, que nos vies sont à 100% dans sa main. Et que peu importe ce qui arrive, il va nous garder dans cette main-là. Sa main qui nous protège, qui nous transforme au travers, on va le voir tantôt, au travers différents passages des Écritures. Hébreux 11, 6, donc c'est ce terrain-là que Jésus nous rencontre et nous aide à traverser. Hébreux 11, 6 nous dit, « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire à ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. » Et si j'ai mis une croix là, c'est parce que je crois que l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ, elle est quelque chose de vraiment fondamental pour chacun de nous. Qu'un jour, on était perdu, on était empêtré dans nos péchés, le Seigneur Jésus est venu, a cogné à la porte de notre cœur. On l'a laissé entrer. On l'a accepté comme notre maître, comme notre sauveur. On s'est repenti de nos fautes. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et là, notre cœur est devenu connecté par le Saint-Esprit à celui du Père et à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Et à partir de ce moment-là, chacun de nous, nous avons le privilège de pouvoir par la foi, au travers nos montagnes, nos difficultés, nous avons ce privilège de regarder à Jésus et de dire, Seigneur, tu es là et peu importe ce qui peut m'arriver, je sais qu'entre tes mains, peu importe, je sais que tu vas m'amener du point A au point B, que tu vas vraiment m'aider à traverser ce que j'ai à traverser pour ta gloire et ton honneur, pour ton témoignage dans ma vie. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est de dégager au travers ce merveilleux texte de l'Évangile de Marc que nous sommes en train de décortiquer un peu. Et je n'ai pas la prétention de vous dire que je vous l'amène super décortiqué et d'une façon, je dirais, complète. Je vous amène des bribes de ce que j'ai moi saisi ce matin. Et je suis convaincu que je vous amène ce message-là dans 2 ans. Et parce que ma foi va avoir grandi, parce que Dieu va augmenter ma compréhension des choses, va tout simplement mettre plus clair ma vision, la façon que Dieu voit les choses, bien, je vais emmener le texte encore d'une façon qui va peut-être être plus profonde, différente, avec d'autres aspects, avec d'autres perspectives que je n'ai pas vues maintenant. Mais on grandit avec Dieu. Chacun de nous, on grandit avec lui. Et il y a des principes que j'ai simplement dégagés au travers de ces textes-là. Et c'est certain que ça s'est fait au travers de lecture. Et c'est sûr que je lis des commentaires, je prends du temps à prier. Et là, je lis le texte, je laisse le soin au Saint-Esprit de parler à mon cœur et de tout simplement de mettre les choses où est-ce que je suis rendu là, m'aide à tout simplement à vous apporter ça afin que vous-même, vous puissiez saisir ces clés-là que j'ai moi-même saisies par la foi. Donc, c'est ça que j'aimerais faire avec vous ce matin, au travers de l'Évangile de Marc, les différents éléments qui vont nous aider à maintenir les yeux de notre foi sur Jésus. Et vraiment, c'est vraiment le but du message ce matin, de garder les yeux de la foi sur Jésus. Peu importe ce que tu traverses présentement, peu importe que ce n'est pas cool, peu importe que tu es dans un état où est-ce que là, tu ne sais pas quelle direction prendre. Est-ce que je peux vous dire que Jésus va rester notre guide jusqu'à notre mort, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher par son esprit. Donc, ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est que de mettre notre foi en Jésus, c'est cette attitude, c'est cette position que nous adoptons qui nous aide à patienter, à tenir bon jusqu'au moment où il va décider d'agir. Donc, la marche de Jésus vers la maison de Jaïrus est tout à coup interrompue par la guérison d'une pauvre femme qui vient de toucher le bord de son vêtement. Donc, cet homme est témoin d'une scène aux côtés de Jésus. Il voit que cette femme-là est guérie. Imaginez, d'un autre côté, la fille de Jaïrus qui est entre la vie et la mort, et comme on expliquait tantôt, tout le trafic jam, parce que là, il y a une femme qui décide de venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Puis dans la tête, il dit, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette femme-là? Hey, ma fille est en train de mourir. Mais Dieu se glorifie. Il guérit cette femme-là. Mais reste que lui, Jaïrus, là, il ne veut pas que sa fille meure. Lui, là, c'est la pire chose qui peut arriver pour lui dans sa tête. Je m'imagine, parce que moi, je suis parent, la pire chose qui peut nous arriver en tant que parent, c'est qu'on perde notre enfant. C'est la pire chose, je pense. Puis écoutez, mon père a perdu un fils. Moi, j'ai perdu un frère. Laissez-moi vous dire, les parents, comment je pourrais dire ça? Ne s'attendent jamais à ce que, les enfants partent avant eux-mêmes. Fait que Jaïrus, c'est ce sentiment-là. Et je ne connais pas beaucoup de gens aussi, quand ils sont jamais dans le trafic, qui aiment attendre. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment attendre dans la vie quand il y a un besoin qui est là, qu'il y a un besoin qui est accomplé, il y a un besoin qui est accomplé dans ton cœur, et que là, il y a comme un mode pause qui est à on. Et que toi, tu sais qu'il y a juste le doigt de Dieu qui peut mettre le mode pause à off pour que les choses avancent. Mais il arrive des fois des situations où est-ce que c'est comme on est en mode pause. Puis on ne sait pas trop, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, quelqu'un a exprimé cette pensée-là. Il dit, parfois, il peut te sembler qu'il prend son temps pour te venir en aide. Mais toi, tu dois avoir confiance en lui. Ta situation peut même empirer, mais tu dois faire absolument confiance à Jésus. Comment est-ce qu'il y en a qui disent « Amen » là-dessus? Une belle pensée. C'est pour moi qui l'ai inventée. Donc, une petite pensée personnelle aussi. Ça, c'est ma pensée personnelle en passant. Ça arrive de temps en temps que j'en mets. Donc, ça nous dit nos temps d'attente sont de merveilleux outils de transformation entre les mains de notre Père céleste pour nous façonner notre caractère et affirmer notre foi en lui. C'est des temps merveilleux pour se laisser façonner. En fait, c'est exactement ce qui va se produire dans notre ami, dans la vie de notre ami Jaïrus. Mais même si sa situation devient un véritable cauchemar à un moment donné, les plans de Dieu sont toujours absolument parfaits. Si ce que tu avais anticipé tourne au cauchemar, mais moi je peux te dire ce matin, hors de tout doute, que le plan de Dieu pour ta vie, il est parfait. Même si ça vire au cauchemar. Pour chacun de nous qui avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ, il y a une merveilleuse promesse qui nous a été donnée et c'est vraiment pertinent avec le message de ce matin. On va la lire ce matin, je vais juste demander à Elodie. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est dans la version, la traduction parole vivante. J'aime tellement ce texte-là parce que c'est la réalité des choses spirituelles et la réalité de la façon que Dieu agit aussi. Nous savons, du reste, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Ça parle du salut aussi. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans le salut au travers lui. C'est la porte du salut, Jésus-Christ. Et qu'en Jésus-Christ, nous sommes appelés à une vocation. Nous avons un plan qui est déterminé pour chacune de nos vies, avec plein de choses merveilleuses et parsemées d'épreuves aussi. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie à l'eau de rose, mais c'est une vie où est-ce qu'on est constamment accompagné par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous aide à traverser. Que ça aille bien, que ça aille mal, que ça aille d'une façon ce matin absolument cauchemardesque, continuons avec une attitude de louange et d'adoration envers Dieu, et c'est ça le plus important. Dis-toi dans ta vie que ça aille bien, que ça aille mal, continue à louer Dieu. Un peu comme Paul et Silas quand ils étaient en prison, acte 16. Ils ne se sont pas limités à se plaindre sur leur sort. Ils ont tout simplement loué, prié, ils ont chanté des louanges, les prisonniers les entendaient et Dieu a envoyé son esprit, toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver dans chacune de nos vies, mais là, c'est ça qui est arrivé. Puis leur attitude, ça ne va pas bien, mais regarde, on va louer Dieu quand même. Parce qu'ils étaient conscients de leur appel, ils étaient conscients que Dieu avait un plan dans leur vie et ça ne les dérangeait pas, je dirais, ça ne les affectait pas au point que ça les empêchait de louer Dieu puis de lever les mains puis de dire, on va louer Dieu quand même. Ça ne va pas bien, Dieu, je te loue quand même. Et c'est cette attitude-là que Dieu veut nous emmener. Et le jour où le réflexe devient quasi instantané, Dieu a atteint son but dans notre vie. C'est que peu importe ce qui m'arrive, je vais te louer, je vais te remercier et je vais continuer à marcher avec toi. Savez-vous quoi? Mettre notre foi en Jésus nous aide à surmonter nos peurs, nos pires craintes et nos inquiétudes, même les plus sombres. Vous savez, il y a ces genres de situations qui tendent à nous aspirer dans l'abîme du plus profond désespoir. Il y a des situations, il y a des choses qui arrivent autour de nous. Il y a même des genres de réflexions qui arrivent dans notre pensée. C'est l'ennemi qui essaie de semer ça. Coudonc, Dieu, il t'a-tu oublié? Et là, nous autres, on répète, « Oh Dieu, je pense que tu m'as oublié. Je pense que tu m'as créé, mais tu m'as laissé là. Et puis, c'est quoi le but dans ma vie? Je ne le sais pas. » Et là, on commence à se centrer sur nous-mêmes avec un orgueil centré sur nous-mêmes et on commence à se plaindre. Et durant le temps que je me plains, mais je n'ai plus les yeux sur Jésus, j'ai les yeux sur moi-même, sur mon besoin, sur tout simplement la chose qui me rend confus. Donc, vous savez, il y a des gens des situations comme ça. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne au texte et qu'on se mette dans les sandales de Jaïrus pour un instant. juste pour un instant, qu'on se mette dans ses sandales. Quand il reçoit une nouvelle, la nouvelle que sa fille est décédée, parce qu'il la reçoit à un moment donné, tout de suite après la guérison, donc immédiatement après la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang, Jairus, et puis écoute, on se met dans ses bottines, il entend cette mauvaise nouvelle-là, et je m'imagine le choc émotionnel vraiment très intense. Puis vous savez, je ne sais pas, mais présentement, je suis en train de développer cette habitude-là d'essayer de me mettre dans la peau des personnages, des textes que je lis des Écritures, où je lis une histoire, un témoignage de quelqu'un, puis j'essaie de me mettre dans ses bottines. Et ça m'aide à mieux comprendre. Et ça m'aide aussi à réaliser qu'on peut s'identifier à chaque personnage de la Bible qui ont vécu des situations, qu'on peut s'identifier à eux autres. Et plus j'étudie les Écritures, et plus je fais cet exercice-là de me mettre dans la peau des personnages, mais on dirait qu'il y a une compréhension, il y a comme une compréhension même de la situation qui vient s'éclairer dans mon esprit. Et ça m'aide aussi envers les gens, que les gens, des fois, ils vivent des situations et ça m'aide à me mettre dans leur bottine, à avoir une meilleure compréhension ou à chercher à mieux comprendre ce que les gens peuvent vivre. Quand il arrive une situation ou qu'ils vivent certaines dynamiques, eh bien, ça éloigne le jugement. Je parle de jugement ou de porter des intentions que les gens n'ont pas, mais de tout simplement de chercher à comprendre. Et juste ce désir-là, et je vous encourage, quand vous lisez la parole de Dieu, que vous voyez, vous lisez, je ne sais pas moi, la vie de l'apôtre Paul au travers les actes des apôtres, d'essayer de vous mettre dans ses bottines ou de prendre un personnage comme ce matin, comme Jairus ou la femme qui est atteinte d'une perte de sang, puis essayez de vous mettre dans ses bottines. Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir? Et le fait que cette femme-là, elle était isolée de la société, comment vous vous sentez quand les gens vous mettent de côté, vous? Ça amène une certaine réalité des choses. Puis ça nous amène aussi à avoir un regard différent sur notre prochain, sur les autres qui nous entourent. Je vous le dis, c'est vrai. Donc, je vous dis, il y a des aspects de la parole que je vous dirais dans le passé, tu sais, c'est important d'avoir une théologie qui est saine, une théologie qui est ancrée dans l'esprit des Écritures, mais la théologie, si elle ne descend pas au cœur, ça devient comme un genre de légalisme, ça devient comme un genre de tout simplement une théorie qui est là, mais quand je laisse la parole de Dieu, toute la réalité de tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, je l'amène à la réalité de ce que nous sommes. Wow, ça fait toute une différence dans ma compréhension. Je ne sais pas vous si c'est comme ça, mais moi, c'est en train de se développer de cette façon-là. Mais je ne vais pas trop rester sur ça. Mais... Donc, je reviens à notre Jairus. Choc émotionnel, c'est sûr et certain, sa fille est morte. Puis il doit se dire en lui-même, « Maï, comment ça se fait que cette femme-là est venue toucher à Jésus dans ce moment-là? » Puis lui, il ne comprend pas. Jésus le sait, lui, que c'est pour que Dieu va se glorifier dans cette situation. Mais lui, Jairus, là, il est là. Il ne comprend pas. Lui, il est au niveau de ce qu'il voit. Oui, c'est le fun, Seigneur, tu as guéri cette femme-là, mais là, ma fille... Elle est morte. Et puis, je m'imagine de voir ces sentiments-là venir en lui, de voir ce désespoir-là qui essaye d'envahir son cœur comme un vrai tsunami. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le désespoir, mais le désespoir veut dire tout simplement que tu n'as plus d'espoir, que c'est fini, là, tu sais. Le désespoir total. Et puis, pourquoi tant de gens aujourd'hui dans notre société mettent fin à leur jour? C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. C'est parce qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux. Et nous avons le privilège, ici, de connaître celui qui nous donne l'espoir. L'espoir, c'est tout simplement, c'est proche de la foi, mais l'espoir, c'est tout ce qui nous est promis, tout ce qui s'en vient, c'est tout ce qui est futur. La foi, c'est tout ce qui touche au présent, au passé, puis au futur aussi en même temps. Mais l'espoir, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet d'espérer que tout n'ira pas tout le temps mal. Comprenez ce que je veux dire. Que tout n'ira pas tout le temps tout croche. Mais un espoir que lui, il est là. Puis comme le chant qu'on chante si souvent, que jamais il va m'abandonner. Jamais il m'abandonnera. C'est une promesse qu'il nous a faite à chaque enfant de Dieu, enfant de Dieu, nouvelle créature que nous sommes. C'est une promesse qu'il est là. Jamais je ne vais t'abandonner. Jamais je vais te laisser, même au travers de tes pires difficultés. Mais je vais toujours te donner le moyen de t'en sortir. Est-ce que vous pouvez dire amen là-dessus? Parce que c'est la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, face à cette nouvelle, mauvaise nouvelle-là, il tient absolument pas compte de ces paroles-là. Parce que Jésus, il est Dieu. Parce qu'il est le grand je suis. Parce que Jésus, il est la résurrection et la vie. Parce que il est celui qui peut faire toutes choses au-delà de toute mesure. Et là, il s'adresse à Jaïrus en lui disant, il dit, « Sois sans crainte, crois seulement. » Parce que la crainte, c'est la crainte et la peur qui nous siphonnent dans le désespoir. Mais c'est la foi en Jésus qui nous redonne l'espoir et qui nous aide à continuer à marcher avec lui. Donc, mettre notre foi en Jésus, c'est simplement croire ce qu'il a dit. La foi, c'est de posséder ce qu'on espère. C'est l'évidence vécue des réalités qu'on ne voit pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, et ça, c'est un commentaire que j'ai trouvé dans le commentaire Chemin de vie, c'est vraiment bon. Ça nous dit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi en utilisant deux propositions parallèles très similaires. Une forme de poésie fréquente dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, les Israélites fidèles prenaient Dieu au mot. Est-ce que vous prenez Jésus au mot ce matin? Est-ce que vous prenez Dieu au mot dans ses promesses, dans ce qu'il a dit dans sa parole? Ils se cramponnaient à ses promesses. Ceux qui étaient fidèles, les Israélites qui aimaient Dieu de tout leur cœur, ils prenaient Dieu au mot, se cramponnaient à ses promesses. La foi est une espérance qui est tellement réelle que celui qui croit considère qu'il possède déjà ce qui, en réalité, n'existe pas encore, mais il est persuadé qu'il obtiendra. Wow! Ça, c'est puissant. Jairus, il entend deux voix. Il entend comme on l'entend, nous autres aussi. Jairus l'entend deux voix, deux affirmations, deux annonces complètement opposées qui le positionnent face à un choix personnel. Donc, Jairus, il est face à un choix maintenant. Il y a une mauvaise nouvelle, et là, Jésus vient de lui dire quelque chose. Crois et sois sans crainte. Le premier choix, c'est se laisser influencer par les colporteurs de mauvaises nouvelles qui viennent confirmer ses pires craintes et se laisser ensuite siphonner par l'horrible monstre du désespoir. Ou le deuxième choix, parce qu'on a toujours le choix, Dieu nous donne ce libre arbitre-là, ou de saisir par la foi la promesse de Jésus, « Sois sans crainte et crois seulement. » Deux choix qui se sont présentés. Et ça, c'est évident dans le texte. Donc, Jésus, est-ce que je peux vous dire ce matin qu'il ne ment jamais, qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Et les paroles et toutes les promesses de Jésus sont comme un rocher inébranlable sur lequel nous pouvons bâtir toute notre vie ce matin, à partir de ce matin. Peu importe les pires tempêtes, présentes ou à venir, nous allons toujours y résister avec la force et la grâce qui sont en Jésus-Christ. Amen. Finalement, une dernière chose que nous devrions absolument retenir, celui qui se confie en Jésus ne sera jamais déçu. Jamais, jamais déçu. On n'est jamais déçu de croire en lui, de lui donner toute notre vie, de lui donner tout notre cœur. On n'est jamais déçu. Donc, Jaïrus, il apprend que sa fille vient de mourir. Le corps de la jeune fille est sûrement très froid. Jésus fait appel à la foi de Jaïrus. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et malgré la mauvaise nouvelle du décès de sa fille, qui doit profondément percuter émotionnellement Jaïrus, lui, il laisse Jésus venir chez lui. Puis arrivé à la maison de cet homme, Jésus prend la jeune fille qui est décédée par la main, un autre geste qui est interdit par la loi. Quelqu'un n'avait pas le droit, s'il n'y avait pas eu de purification de fait, n'avait pas le droit de toucher un mort. Mais Jésus, il est celui qui purifie ce qui est impur, quand ce qui est impur veut se laisser purifier. Et dans le cas de cette jeune fille-là, Jésus, il est celui qui est la résurrection et la vie. Il prend la fille par la main et l'esprit de la fille le corps de la fille reprend vie, son esprit revient en elle. Le texte nous dit que son esprit revient à elle et elle reprend vie. Donc, par cela, Jésus démontre encore sa puissance infinie en rappelant la jeune fille à la vie, au bonheur de ses parents. Et ses parents, ont-tu bien fait de croire? S'il était resté dans le désespoir, sa fille serait restée morte. Mais ils ont décidé de croire en celui qui est la résurrection et la vie, en Jésus qui peut changer du tout au tout nos dynamiques. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui est mort. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu considères mort, mais que ce matin, Jésus peut rendre à la vie. Jésus peut rendre à la vie ce que tu considères qui est mort en toi. Il peut le ressusciter et faire de toi quelqu'un qui va le glorifier. Moi, là, il y a une personne qui me vient à l'esprit, Nick Vujicic, celui qui est né pas de bras, pas de jambes. Vous savez, ce gars-là, à un moment donné, dans un jeune âge, il a voulu mettre la fin à ses jours. Il avait vraiment le mal de vivre. Vraiment le mal de vivre. Lui, il voulait mourir. Il a essayé de mettre fin à ses jours. Comment ça se fait que je suis venu au monde handicapé comme ça? Et puis, à un moment donné, après une tentative de suicide, Dieu a vraiment touché son cœur. Ce gars-là, maintenant, aujourd'hui, amène des milliers d'âmes à Christ. Ce qui était son handicap est devenu une force puissante dans sa vie. Dieu s'est servi de son profond handicap pour agir avec puissance au travers de ce gars-là. Et souvent, nous, on se trouve handicapés. Moi, des fois, je me trouve handicapé, vraiment. Je me trouve des fois tellement pas compétent, des fois gaffeux au bout. Mais savez-vous, ce qui me console ce matin, vraiment, je vous le dis devant vous, ce qui me console, comme serviteur de tous, parce que pasteur, moi je crois que la vraie définition du pasteur, c'est un laveur de pieds. C'est un serviteur de tous. C'est ça un pasteur. C'est celui qui va accepter de se faire mordre par les brebis, puis qui ne va rien dire. C'est celui qui va accepter de se faire juger sans cause. Des fois, pour des choses que je fais ou que je ne fais pas. Et si les gens savaient pourquoi des fois je ne prends pas telle décision, parce que des fois, les gens ne savent pas pourquoi je ne prends pas telle décision. Parce qu'il y a d'autres détails que les gens ne savent pas. Mais ça, ce n'est pas grave. Prêtez-moi les intentions que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais moi, je sais dans ma vie que malgré mes handicaps, mes défauts, malgré ce que je suis comme personne, qui est en cheminement constant dans la grâce de Dieu pour grandir avec lui, je sais qu'il suppléait à mes handicaps. Je sais que sa grâce, elle est toute suffisante pour suppléer à mes handicaps, tout comme la grâce, elle était infiniment suffisante au travers de Nick Vujicic pour emmener des milliers de jeunes, des milliers d'âmes. Il est rendu pasteur, ce gars-là. Il est marié. Il a un enfant, ou deux enfants maintenant. Il a une épouse qui est vraiment très jolie. Tu sais, je veux juste vous dire que Dieu a béni ce gars-là parce que, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est dit, garde, Dieu, ma grâce te suffit. Dans ma faiblesse, dans ce que je suis, dans mon handicap, mais tu vas faire en sorte que tout simplement, si je te donne ma vie, mais toi, tu vas t'en servir pour ta gloire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a abandonné son cœur. Et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Une inspiration pour des millions de personnes. Un gars, pas de pattes, pas de bras. Puis il ne veut pas changer. Pour toute l'heure au monde, il veut rester ce qu'il est, tout simplement. Parce que Dieu s'en sert puissamment. C'était l'appel que Dieu avait sur sa vie. C'était le plan spécifique. C'est un gars d'absolument unique. Comme chacun de vous, vous êtes absolument unique dans ce lieu ici. Et que Dieu veut se servir de chacune de vos vies. Rien n'est trop difficile ou compliqué pour Jésus. Là, je vais vers la fin. C'est ma conclusion. Rien n'est trop difficile ou compliqué pour Jésus face à des situations qui nous paraissent impossibles et on peut vraiment lui faire confiance ce matin. Est-ce que je peux tout simplement avoir votre accord sur le fait que Jésus, on peut lui faire absolument confiance? Est-ce que je peux avoir votre accord là-dessus? On peut vraiment y faire confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui nous dit que non, il ne faut pas lui faire confiance? Non, il nous appelle à lui faire vraiment confiance. Si Jésus a promis de nous aider dans nos moments de détresse, on ne sera jamais déçu si nous faisons appel à lui avec foi. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, une assurance. » C'est quoi une assurance? C'est qu'on est assuré. Vous, là, vous êtes assuré avec un assureur pour votre maison, votre auto. Quand vous faites un accrochage, bon, vous avez cette assurance-là que votre assurance va vous assurer pour les dommages. Vous êtes d'accord avec moi? C'est certain qu'il faut à payer. Mais Christ a payé le prix pour nous. On a une assurance vie éternelle. Et dans les clauses de cette assurance vie éternelle-là, on a auprès de lui que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que lui avons demandé. On le possède, si on le demande selon sa volonté, on va le posséder. Je vais terminer avec ces petites pensées-là concernant la foi. C'est tiré du livre de Maurice Lednicki dans son livre « L'ADN de la foi ». Et on va aller à la première citation. Et je les ai marqués pour que vous puissiez prendre le temps juste d'y réfléchir. C'est-à-dire de regarder les épreuves dans les yeux avec la ferme. Donc, il parle de la foi comme de regarder les épreuves dans les yeux avec la ferme assurance que le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, a le pouvoir de changer le cours des choses. Et cela, la foi, c'est cela la foi authentique. Deuxième citation. Ça s'en vient. La foi authentique est en Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir et la sagesse de faire ce qui est bon, juste et parfait en toutes circonstances et au bon moment. Ensuite, on va aller sur l'autre diapositive. Je vais aller un peu rapidement. Mais le message va être sur Internet. Donc, vous allez pouvoir aller le relire. Avoir foi en Dieu génère en nous l'assurance et la paix. Et non la confusion et le désespoir. C'est ça que ça fait la foi. Avoir foi en Dieu efface toute trace de culpabilité si jamais la réponse espérée ne vient pas au moment que nous l'aurions voulu ou comme nous l'aurions désiré. Mais parce que tu as foi en Dieu, tu sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va répondre à sa façon. Et il va toujours répondre, toujours à la perfection pour qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Ensuite, avoir foi en Dieu témoigne de notre relation de confiance inconditionnelle en son amour et en sa miséricorde et en sa grâce. Celui qui a foi en la foi, et ça c'est la doctrine de la prospérité, c'est la foi en la foi, c'est que c'est comme une formule magique, la doctrine de la prospérité, et c'est que Dieu n'est plus souverain dans leur cas, mais Dieu est souverain. On doit prier selon sa volonté. Si on ne prie pas selon la volonté de Dieu, selon son plan, selon son caractère, c'est just too bad, il ne répond pas. Dieu, ce n'est pas une formule magique. C'est nous, nos cœurs soumis à lui. Et si nos cœurs lui sont soumis, je peux-tu vous dire que nos prières vont aller dans le sens de sa volonté? Amen. Donc, celui qui a foi en la foi cherche à obtenir des résultats. Celui qui a foi en Dieu cherche à bâtir une relation avec lui. Donc, la foi, qu'est-ce que c'est? Sinon, une relation personnelle avec lui. Que quand je vis une relation personnelle avec lui, eh bien là, il connaît mon cœur, je connais son cœur. De toute façon, même si je n'ai pas de relation, il connaît quand même mon cœur, mais pour moi, je veux connaître son cœur. Je veux que mon cœur, à tous les jours, reste branché. Qu'il n'y a rien qui puisse venir couper le cordon. Que mon cœur reste branché. Et pour connaître sa volonté. Ensuite, une autre citation. Jésus n'a jamais dit que le suivre signifiait vivre dans le luxe. Il a dit que nous serions comblés par ce que nous apporte notre Père Céleste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Mais qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? C'est de rechercher Dieu, de rechercher sa présence, de rechercher sa volonté. Et toute chose, nous dit la Bible, va nous être donnée. Et voilà. Ensuite, les sentiments d'euphorie éprouvés au sommet des montagnes sont merveilleux, mais la foi éprouvée dans la vallée de la mort nous guide à travers l'obscurité jusqu'à la victoire. Et c'est ça qui est l'important. Quand tu traverses ta vallée, quand tu traverses, cette vallée sombre, où est-ce que le désespoir, comme un gros monstre, te court après, essaie de t'engloutir. La foi en Jésus-Christ va faire que la lumière va te guider. Cette lumière-là, Jésus-Christ, la parole faite chair, va te guider vers la lumière et vers la solution et vers la direction qu'il veut pour ta vie. Amen. Premier Pierre, et je termine avec deux versets, c'est vrai. Les diverses épreuves et tentations, et ça c'est dans la parole vivante, la traduction de parole vivante, la transcription. Les diverses épreuves et tentations, elles éprouvent la réalité de votre foi et augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieux, précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi en lui, au travers même de nos épreuves. Et quand je regarde Jaïrus, quand je regarde cette femme-là qui pendant 12 ans a été malade et que Jésus a guéri, je vois dans nos vies parfois des situations qui sans être pareilles, sont peut-être similaires. Je termine avec ce verset-là. Philippiens 4:6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Et qu'est-ce que ça dit? Quelle est la chose la plus précieuse dans ce monde agité? Quelle est la chose, je dirais, la plus précieuse qui nous aide à tout simplement s'asseoir devant Dieu et faire en sorte que cet élément-là, quand il est dans notre vie, ça permet à Dieu de nous parler. Ça le dit ici. Et la paix de Dieu nous permet d'avoir le cœur et l'esprit tranquille pour être à son écoute, tout simplement. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que ça dit ici? Va garder vos cœurs et vos pensées en communion, en relation, en connexion avec Jésus-Christ. Amen. Donc, je termine avec ce verset-là ce matin. J'aimerais qu'on puisse, en terminant, ceux que vous avez besoin, peut-être mettre une petite musique de fond, mais j'aimerais ce matin juste prier pour les besoins. Si vous avez des besoins, littéralement, faites-le par la foi. Faites-le par la foi, peut-être à votre place, à votre endroit, où est-ce que vous êtes. Mais ce moment-là, ce matin, il est précieux. Partez pas sans avoir mis quelque chose devant Jésus ce matin.